Merci Mireille et désolée de plomber un peu l'ambiance par ce sujet particulièrement joyeux qui est un peu le prolongement de l'introduction que j'avais faite pour ce volume. Donc je fais un peu de service après-vente effectivement auquel beaucoup de personnes ici présentes m'ont fait l'amitié de participer où j'avais parlé du roman Le Ponce comme roman de la fin. Et donc là c'est un sujet à la fois plus radical et moins engageant. Ponce comme roman de la mort, en me fondant particulièrement sur une séquence du roman, des chapitres 65 à 71, plus ou moins en forme d'études littéraires, puisque nous sommes dans des journées d'agrégation, mais avec aussi des élargissements que je me permettrai ici et là, au sein même de l'œuvre, ou même dans la comédie humaine. Donc je commencerai par la mort comme elle est, pour reprendre le titre d'un chapitre de notre édition. La mort comme elle est, c'est ainsi effectivement que l'on peut présenter tout d'abord le motif, le thème de la mort dans notre roman. Je vais passer assez vite sur le premier point, car il a déjà été mentionné plusieurs fois, ce que j'ai appelé la réification du mort, qui renvoie surtout à la page 330, la sauvage qui ferme les yeux au pauvre musicien expiré, puis avec cette habitude des gardes-malades, métier qu'elle avait exercé pendant 10 ans, elle déshabilla Ponce, l'étendit, lui colla les mains de chaque côté du corps et lui ramena la couverture sur le nez, avec cette comparaison qui clôt le paragraphe, absolument comme un commis fait un paquet dans un magasin. Donc le mort apparaît comme une forme de marchandise, marchandises qui seront d'ailleurs réclamées par la sauvage dans la page suivante. Il faut, après la mort, il faut finalement beaucoup de choses pour beaucoup de choses nécessaires à la vie. C'est d'ailleurs le mot qui clôt le chapitre, page 332. Il faut du linge, il faut du bois, il faut du charbon, etc. Hein, donc le mort, lui, apparaît comme une marchandise parmi d'autres. Mais je m'attarderai surtout un peu plus sur le deuxième point que j'ai appelé, ça va être dur à dire, l'administrationnalisation de la mort. Vous allez me dire, mais quel affreux barbarisme. Mais ce barbarisme, ce néologisme, si je puis dire, c'est un néologisme que j'emprunte en partie à Balzac, à Ferragus, où on a une très très grande séquence du Père Lachaise. Donc là, ce sont les références qui s'affichent à l'édition Pléiade, où en fait, c'est surtout sur le portier du Père Lachaise. Hein, on a cette très très longue séquence avec cette phrase « Oui, sachez-le bien, tous les sentiments de Paris viennent aboutir à cette loge et s'y administrationalisent. » Voilà, donc j'ai repris cette forme en la substantivant pour montrer ce qui me semble vraiment le plus intéressant dans notre passage. En effet, s'y exprime ce qu'on peut appeler une vision sociologique de la mort. On a eu beaucoup de travaux sur Balzac, sociologue, pré-sociologue. Hein. Donc cette vision sociologique de la mort qui était déjà qui faisait l'objet de Ferragus, hein, donc je passe sur ce très très long passage mais auquel on peut se référer, qui est aussi cette vision qui s'exprime dans Illusion perdue lorsqu'on a une tentative de suicide, enfin, plutôt une tentation, une tentative de suicide de Lucien, avec ce discours sur le suicide hein, qui laisse parler un vocabulaire de l'observation, de l'analyse, etc. Tout ça, on va le retrouver dans notre passage du cousin Ponce. On a un traitement paradoxal d'un thème que, faute de mieux, on va appeler romantique, hein, donc avec une vision sociale de la mort. Je renvoie à cette page 337. « Personne ne pense à la mort et à ses conséquences social. Hein, donc au lieu d'un passage romantique, on va avoir une vision sociologique de la mort, notamment avec le ballet des hommes en noir qui se succède auprès de Schmuck. Tout d'abord, page 335, un homme vêtu de noir qui représente la maison Sonnet. Il sera par la suite invariablement appelé le courtier de la maison Sonnet dans les pages qui suivent, c'est sa dénomination. Deuxièmement, page 339, un jeune homme vêtu de noir, le courtier d'embaumement. Puis, page 340, un jeune homme vêtu de noir également, le fournisseur des bières de la paroisse. Et enfin, donc, on a le quatrième personnage qui, lui, est nommé Vimo, le premier clerc de Tabarot. Et enfin, donc, le maître des cérémonies qui, lui, est vêtu de drap noir. Donc, ce balai des hommes en noir montre une vision administrationalisée de la mort. Ils revêtent tous une fausse image du deuil à laquelle s'oppose Schmuck, qui n'est pas habillé en noir, mais qui dit, il fait cette réflexion à la page 345. J'ai très peur d'utiliser l'accent de Schmuck. Je suis tout noir à l'intérieur. Voilà. Donc il est tout noir à l'intérieur, tandis que tous ces hommes, eux, ont ces habits vêtus de noir. Enfin, ils sont vêtus de noir, mais ne font que administrationaliser la mort. Se pose alors la question du pathétique. Puisqu'on a cette administrationnalisation de la mort, comment peut cette mort peut-elle donner lieu à un traitement pathétique attendu ? Sur le plan de la diégèse, la douleur de Schmuck est contrariée par les autres personnages. Il est sans cesse tiraillé, sans cesse dérangé dans sa douleur, hein, ce qui fait que sur le plan de la narration, on n'a pas de grande scène pathétique, dont est par ailleurs capable Balzac exactement au même moment. Il faut penser à la mort de Lucien et Madame de Sérisy qui se rue sur la grille du guichet de la conciergerie pour y entrer et qui brise un barreau de la grille tellement elle serre ce barreau de ses mains. Donc on n'a pas de grande scène pathétique puisque en fait les amorces du pathétique sont sans cesse, enfin le pathétique plus précisément est sans cesse désamorcé par une série d'importuns hein, qui viennent briser le mouvement pathétique. Je dirais même qu'on n'a pas de grande scène du tout. Si je pense à la cousine bête et à la mort de Valérie et de Crevel, on a une grande scène, une scène où l'on fait des mots. Les médecins disent, par exemple, « ce sera toujours une magnifique autopsie hein, », et ce, avant que les personnages meurent. On connaît le dernier mot de Valérie, « il faut que je fasse le bon Dieu ». Quant à Crevel, il fait cette réflexion en libre penseur, « je saurais faire mes paquets, je suis un ancien commis voyageur, j'ai l'habitude des départs ». Donc on a une grande série de mots, une grande scène de mots qu'on n'a pas ici en fait. Hein. Cette multiplication des pique-assiettes du cimetière, des parasites de la mort, hein, on a ce magnifique passage que je trouve toujours extraordinaire, page 349, hein, on ne figure pas le nombre des gens pour qui la mort est un abreuvoir. Hein, le bas clergé de l'église, les pauvres, les croque-morts, les cochers, les fossoyeurs, ces natures spongieuses se retirent gonflées en se plongeant dans un corbillard. Donc c'est cette multiplication des pique-assiettes du cimetière, empêche cette grande scène pathétique, donnant lieu du coup plutôt à un traitement qu'on va dire réaliste de la mort de la part du copiste Balzac, avec notamment je précise hein, que d'ailleurs j'ai mis ce tableau, c'est exactement le moment où Courbet commence à peindre un enterrement en ornant qui paraît en 1800, enfin paraît, qui est exposé en 1850, mais il commence à s'y mettre dès début 1849. Donc, autre traitement paradoxal d'un motif, on va dire, où il prend à revers toute une tradition de la représentation de la mort. Donc, cette absence, finalement, de grandes scènes pathétiques est intéressante. On peut dire que, d'une certaine façon, ça aurait été bien plus fort, évidemment, de terminer sur la scène de don musical de Schmuck à Ponce. Mais on ne termine pas là-dessus, hein, j'y reviendrai. Hein. C'est bien avant, c'est une vingtaine de pages avant que n'advienne la mort de Ponce véritablement. J'en viens donc à ma deuxième partie que j'ai appelée... parité un petit peu fourre-tout peut-être, fonction et signification, je me pose la question du sens de cette mort. Cette mort a-t-elle un sens ? Du point de vue de la diégèse, je vais dire pas vraiment. On a là la tout le roman fonctionne comme une chronique d'une mort annoncée. Sur le plan diégétique, la mort de Ponce n'est pas un événement. Elle est présentée comme inéluctable depuis des pages par les personnages, mais surtout par le narrateur qui, dès la page 154, donc bien avant notre passage, disait que cette promenade devait être la dernière du bonhomme Ponce. Donc dès la page 154, on sait que Ponce ne va plus sortir de chez lui, qu'il est rentré chez lui pour y mourir. Donc elle est présentée comme inéluctable et son état empire peu à peu jusqu'à son agonie finale, mais cette agonie n'est du coup pas présentée comme étant un événement qui va, qui est digne véritablement d'être traité comme tel, qui va redistribuer tout de suite les cartes de l'intrigue. Tout est préparé bien avant, hein, les autres personnages ont déjà placé se sont déjà placés autour de ce mort annoncé. La question que je me poserai aussi, c'est celle de la révélation. Sur le plan, cette fois-ci, non pas diégétique, mais de la poétique des personnages. L'agonie, la mort, c'est souvent, lors des romans, mais notamment balzaciens, le moment d'une coïncidence de soi à soi. C'est le moment de la révélation, l'instant de vérité. Hein, c'est le moment où on a une parole de vérité, hein, où l'on dit ce que l'on est, notamment dans des confession. Alors c'est vrai que chez Balzac, ça va être surtout le cas dans des morts féminines. Alors bien sûr, vous êtes des balzaciens chevronnés, mais je me disais que les étudiants, eux, ne savaient peut-être pas le nom des personnages. Donc je pense à la grande scène de Véronique Gralin dans Le Curé Village, à Henriette de Morsauf dans Le Lys dans la Vallée, ou à Clémence Desmarais dans Ferragus. Que cette révélation, que cette grande séquence d'aveux soit de type oral, hein, pour Véronique ou Henriette, ou bien écrit, Clémence donne, Madame Jules donne une lettre à son mari. Et donc j'ai rappelé un ouvrage, hein, de Véronique Buis sur La femme, la faute et l'écrivain, la mort féminine dans l'œuvre de Balzac, sur ces moments de révélation. Donc a-t-on véritablement un instant de vérité? Est-ce qu'on a un instant de vérité de ce type dans Le Cousin Ponce? Eh bien, non, je dirais qu'on n'a pas de grande scène de confession. Le moment de la mort, me semble-t-il, finalement révèle l'ambiguïté foncière du personnage. Et là, je renvoie au très bel article de Jacques-David Ebgui dans le volume que j'ai dirigé. On a ce passage tout à fait étonnant de la page 326. Mais comme on sait, les mourants sont en proie à une hallucination qui les pousse à s'emparer de tout, comme des gens empressés d'emporter dans un incendie leurs objets les plus précieux. Et Ponce lasse Hachemouk pour saisir ses couvertures et les rassembler autour de son corps par un horrible et significatif mouvement d'avarice et de hâte. Donc on a un rejet de Hachemouk, hein, pour, finalement, dans ce mouvement d'avarice, Ponce est bien ce personnage qui collectionne, qui ne veut rien lâcher. Il a quelque chose ici du père Grandet dans cette fin. Hein, il veut tout conserver. Il y a certes, quelques pages après, page 328, un moment de retour à l'amitié, mais qui ne donne pas lieu à de grands épanchements, qui tourne très vite à des questions pratiques. Hein, page 329, on a cet énoncé brutal par la sauvage, il vient de passer. Hein, donc on n'a pas de scène de mise à nu, pas une parole d'une logorée, cette logorée de la vérité comprimée qui s'exprimerait enfin au moment de la mort. Je remarque de manière assez remarquable, c'est une super formulation, dans La Cousine Bête, on a ce même phénomène à propos de Bette elle-même, qui, je cite, au moment donc de son agonie, qui aurait pu être un grand moment de révélation, je vous ai tous détesté, etc., elle garda le secret de sa haine. Hein, donc l'agonie n'est plus ce moment de vérité qu'il a pu être. Et comme je le disais, donc la belle scène d'amitié, de don musical, hein, qui aurait pu être une scène de communion, on aurait pu penser justement à une communion qui ne passe pas par les mots, mais par la musique, n'est pas la scène qui clôt véritablement la séquence de la mort de Ponce. Hein, ça aurait été un point d'orgue parfait, mais ce n'est pas cela que Balzac a choisi. Donc, Il n'y a pas de révélation au sens strict, et on a plutôt un passage qui nous montre ce personnage en demi-teinte qu'est le cousin Ponce. Enfin, troisièmement, la fin d'un monde, non plus sur le plan diégétique ou de la poétique des personnages, mais de l'histoire. La mort de Ponce entérine la disparition d'une espèce en voie d'extinction dont la rémanence dans la société contemporaine était fort problématique. Cette croche antédiluvienne, ce débris, va et finalement disparaître comme il se doit. C'est la disparition de quelqu'un qui était déjà passé, dont les mœurs étaient déjà révolues. Cet homme empire, ce dernier porte Spencer, enfin disparaît à la fin du roman. Ce Napoléon ressuscité rejoint sa tombe. Puisqu'on nous dit qu'un homme en Spencer, rappelez-vous, hein, selon cette magnifique formule, c'est un peu comme si Napoléon eût daigné ressusciter pour 2 heures. De manière intéressante, on voit bien qu'après la mort de Schmuck, qui est le double un peu de Ponce qui s'éteint aussi à la fin du roman, le temps du récit passe au présent. Hein, cette fois-ci, le passé est bel et bien trépassé. On passe à un autre temps du récit ouvert sur le présent. Sur Ponce donc disparaît, il survit uniquement sous la forme de sa collection en une synecdoque muséale. C'est ce qui peut être conservé, hein, c'est la relique de Ponce au sens étymologique, ce qui reste. L'héroïne dont parle Balzac, cette collection, est un avatar du héros Ponce. Et elle demeure, hein, donc elle n'est pas dispersée, même si la dernière désignation est pour le moins hasardeuse, hein, dans la bouche de la Marville, la présidente de Marville. Ce sont des belles choses qui avaient tant amusé ce cher cousin. Hein, donc l'adjectif, le verbe ici « amuser » est significatif de ce dédain pour les arts qui caractérise ce personnage de la Marville. J'en viens à ma troisième partie que j'ai intitulée « Le cimetière de la comédie humaine ». Thomas Conrad a très bien montré les liens du cousin Ponce avec la comédie humaine, également dans cet ouvrage. Je suis désolée si j'ai vraiment l'impression de faire de la publicité. Tout l'univers de la comédie humaine est comme tenu à distance. Il est présent, mais à distance, dans le lointain, dans le cousin Ponce. C'est ce que j'essaierai de voir ici, mais par le biais du cimetière, hein, si je puis dire. Tout d'abord, en montrant l'empire de la mort dans notre roman et aussi dans le roman qui lui est souvent associé, qui est « La cousine bête ». Dans le cousin Ponce, on n'a pas seulement la mort de Ponce, mais on a la mort de Schmuck, expédiée en quelques lignes. On a la mort de Cibot, qui se passe en même temps que celle de Ponce. Et puis, à la toute fin, on a la mort de Rémoninck, hein, puisque la Cibot est veuve à nouveau. Dans l'œuvre jumelle de la cousine bête, c'est une véritable hécatombe. On a Marneffe, tout d'abord, ce qui va laisser Valérie disponible pour un nouveau mariage. Valérie et Crevel, dont la putréfaction annoncera d'une certaine façon celle de Nana, hein, de Zola. Hulot l'aîné, Bette elle-même, et enfin Adeline Hulot. Hein, donc tout un convoi qui emporte ces personnages au Père Lachaise. Mais je m'attarderai sur un autre parallèle, peut-être moins évident, le parallèle entre le cousin Ponce et Splendeur et misère des courtisanes. Je rappelle que, et notamment la dernière incarnation de Vautrin, je rappelle que ces textes paraissent en même temps, au printemps 1847, dans le Constitutionnel pour le cousin Ponce et la Presse pour la dernière incarnation de Vautrin. Et donc j'aimerais vous inviter à esquisser ce parallèle dans une série de textes que j'ai mis en regard. Tout d'abord, le personnage qui tient entre la main du mort dans la main. Hein, donc, Jacques Collin éplat donc cette terriblette en tenant la main de Lucien. On ne connaît pas d'homme qui puisse garder pendant 10 minutes un morceau de glace en le serrant avec force dans le creux de sa main. La froideur se communique aux sources de la vie avec une rapidité mortelle. Mais l'effet de ce froid terrible et agissant comme un poison est à peine comparable à celui que produit sur l'âme la main raide et glacée d'une mort tenue ainsi, serrée ainsi. La mort parle alors à la vie. Elle dit des secrets noirs et qui tue bien des sentiments, car en fait de sentiments, changer n'est-ce pas mourir ? Et à la fin, donc, on le revoit, avant 1h du matin, lorsqu'on vint enlever le corps, on trouva Jacques Collin agenouillé devant le lit. Le malheureux tenait toujours la main de Lucien entre ses mains jointes et priait Dieu. Et donc, on a ce passage aussi de la main tenue dans le cousin Ponce. Schmuck jeta un cri perçant, il sentit la main de Ponce glacée qui se roidissait et il resta les yeux fixes, arrêtés sur ceux de Ponce, dont l'expression l'eût rendu fou, sans Madame Sauvage. Hein, donc elle sépara vivement la main de Schmuck de la main du mort. « Quittez-la donc, monsieur, vous ne pourriez donc plus l'ôter. Vous ne savez pas comme les eaux vont se durcir. Ça va vite, le refroidissement des morts. Si l'on n'apprête pas un mort pendant qu'il est encore tiède, il faut plus tard lui casser les membres. » Et puis, après, il se jette sur Ponce une fois qu'il est seul. Hein, on a ce même embrassement entre Collin et Lucien d'une part et entre Schmuck et Ponce de l'autre. Je poursuis le parallèle. Il y a cette impossibilité de communiquer avec le mort qui apparaît aussi bien dans Splendeur que dans le cousin Ponce. Hein, Collin veut communiquer avec lui. Pourquoi ? Dit Jacques Collin, stupéfait, c'est plus possible, hein, mais il s'est pendu. Mais non, ce n'est pas possible, reprit Collin. Et puis, on a ce fameux épisode de celui qui veut embaumer le cousin Ponce. Et donc, si vous voulez revoir votre ami tel qu'il était de son vivant, le refoir, s'écria Schmuck, me parlera-t-il ? Pas absolument, il ne lui manquera que la parole, reprit le courtier d'embaumement. Et on se souvient que la Cibo, elle, a fait embaumer son chéri. Hein, c'est comme ça que... une citation. Il y a aussi le passage, le convoi vers le Père Lachaise, avec les voitures de deuil qui sont vides, aussi bien dans Splendeur et misère des courtisanes que dans le cousin Ponce. Hein, quand le convoi atteignit au Père Lachaise, la suite ne se composait que d'une douzaine de personnes, et dit 10 voitures de deuil, il n'y en eut pas 4 de pleine. Et puis c'est expliqué dans le cousin Ponce. Hein, donc ils tiennent tous dans une voiture, les deux autres, au lieu de retourner à l'administration, allèrent à vide au Père Lachaise. Et puis là, Balzac explique pourquoi, hein, puisque cette course inutile de voiture à vide a lieu souvent. Hein, lorsque les morts ne jouissent d'aucune célébrité, n'attirent aucun concours de monde, il y a toujours trop de voitures. Les morts doivent avoir été bien aimés dans leur vie pour qu'à Paris, où tout le monde voudrait trouver une 25e heure à chaque journée, on suive un parent ou un ami jusqu'au cimetière. Il y a enfin le corps qui est descendu dans la fosse, et Collin s'évanouit, Vautrin, donc, et de l'autre côté aussi, Schmuck s'évanouit au moment où l'on descend le corps dans la fosse. Et enfin, il y a le monument, c'est de là que je suis partie en fait, c'est de ce monument ordonné par Lucien pour Esther et pour lui passe pour être d'un des plus beaux du Père Lachaise, et le terrain en dessous appartient à Jacques Collin. Et dans le cousin Ponce, on y a une référence. Notre maison a fait le magnifique monument de la belle Esther Gobzette et du Lucien de Rubempré, l'un des plus magnifiques du Père Lachaise. Donc c'est en partant de ce monument que j'ai retissé finalement le parallèle. Alors, que penser de ce parallèle qui est vraiment frappant ? Tout d'abord, il faut quand même mentionner qu'on a dans les deux cas un homme qui pleure sur un autre. C'est-à-dire que je pense que la relation Schmuck-Ponce prend une autre coloration avec cet éclairage de la relation Collin-Lucien. Hein, c'est un homme qui pleure sur un autre, avec aussi donc, ce jeu d'écho. Il me semble que toute ce pathétique problématique hein, du cousin Ponce, finalement, si on le met en rapport avec Splendeur et misère des courtisanes, il y a plus de, je dirais, de le pathétique, la charge pathétique peut revenir grâce à ce parallèle. Mais d'un autre côté, quand on nous dit que le monument ordonné par Lucien pour Esther et pour lui passe pour être un des plus beaux, on se dit que c'est peut-être juste le discours du représentant de la maison Sonnet qui a réussi à s'imposer, hein, puisque c'est ce discours-là qu'on a dans le cousin Ponce. Donc cet homme qui pleure sur un autre, la femme est exclue, on en a beaucoup parlé, de la femme comme source de tous les maux. Comme le dit Vautrin, la femme avec son génie de bourreau, ses talents pour la torture, est et sera toujours la perte de l'homme. Donc ça, c'est un des derniers mots du cousin de Splendeur. On a donc simplement, ce qui est frappant, c'est que Schmuck est évidemment à l'opposé de Vautrin. Schmuck est un agneau, c'est un innocent, tandis que Vautrin est un forçat, un bandit qui n'hésite pas à tuer un homme si nécessaire. Donc on a ce parallèle alors même que tout semblait les opposer. Hein, et puis tous deux veulent finalement rejoindre leur ami dans la mort. Comme le dit Vautrin, c'est encore un bonheur de pourrir ensemble. Mais Schmuck meurt, alors que Colin, fidèle à son surnom de Trompe-la-Mort, demeure à la fin, seul, le seul rescapé à la fin de Splendeur, tout comme Mosca qui survit à la fin de La Chartreuse, roman apprécié par Balzac, comme on le sait. J'en viens à mon troisième point et dernier, et je m'arrêterai là. Un univers romanesque au Père Lachaise. On a donc, il me semble, dans ces derniers romans, un grand convoi funèbre qui pose un vrai problème de l'univers romanesque, puisqu'il est fondé sur la dynamique des personnages reparaissants. On a plutôt des personnages disparaissants, ici, qui sont venus rejoindre la comédie humaine du Père Lachaise. Donc c'est ce que j'appellerais ces romans de la fin. C'est la nécessité pour l'auteur, s'il devait poursuivre son œuvre, de créer de nouveaux personnages pour relancer la machine, puisqu'on a ces personnages qui viennent s'agglutiner tous, rejoindre les différents tombeaux du Père Lachaise. Voilà, et je m'arrête là. Sans